A3, c'est plus sympa. Format A3.
Qu'est-ce que l'autisme? Comment est-il vécu par les enfants, par leurs parents? Ce sont quelques-unes des questions que nous sommes amenés à tous nous poser demain, samedi 2 avril. C'est la journée mondiale de sensibilisation aux troubles autistiques.
Un comportement bizarre, du mal à rester tranquille, certains bruits qui angoissent ou la peur du changement, ce sont des éléments qui peuvent caractériser un enfant autiste, mais l'autisme est plus complexe que ça.
Oui, nous voulons vous apporter quelques éléments de réponse, mais surtout également vous faire prendre conscience que l'autisme, ça peut nous concerner. On dit qu'il y a peut-être dans l'arc jurassien entre 1500 et 2000 personnes autistes, et les témoignages que l'on amène sont toujours une petite goutte importante dans cet océan de questions. Et nous sommes ce matin en compagnie de Véronique et Pascal Berbera, parents de Sylvain, 13 ans. Véronique et Pascal, bonjour.
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 Véronique, vous êtes également la présidente de l'association TED Autisme Jura, une association qui regroupe une trentaine de familles, peut-être un petit peu plus.
À peu près une trentaine de membres, oui.
Alors on va commencer par votre enfant, Sylvain, il a 13 ans. À quel âge est-ce qu'il a été diagnostiqué?
Alors Sylvain a été diagnostiqué assez tard, il a été diagnostiqué à l'âge de 7 ans.
Alors on imagine bien que pour les parents, ce diagnostic est un bouleversement et qu'au moment où il arrive, il pose pas mal de questions, Pascal.
Je pense que c'était plus un soulagement pour nous parce que notre enfant avait beaucoup de problèmes. Et puis quand on a pu mettre ce mot-là sur ces problèmes-là, c'était en fait pour nous un point de départ pour pouvoir vivre avec.
7 ans, c'est l'âge auquel, vous l'avez dit, le diagnostic a été posé, les mots ont été mis, mais les troubles, enfin, votre enfant, vous le sentiez différent depuis bien longtemps, donc il y a une sorte de parcours du combattant à savoir ce qu'était cette différence.
Oui, alors en fait, nous, depuis le début, je dirais qu'on a senti une différence par rapport à un autre enfant. On a juste une petite particularité, c'est que Sylvain est adopté, c'est-à-dire qu'il est arrivé chez nous à l'âge de 13 mois, mais avec un gros, gros retard. Et puis, c'est vrai qu'au début, on a mis un peu... les médecins ont mis un petit peu ça sur le compte de l'adoption, en disant qu'il avait peut-être un retard dû à un manque de stimulation. Nous, ça ne nous parlait pas trop. Enfin, on a l'impression qu'il y avait autre chose qui se greffait derrière. Ensuite, il a eu un diagnostic d'infirmité motrice cérébrale. Et puis, tous ces diagnostics ont fait que ça n'a fait qu'augmenter le temps pour qu'enfin on nous dise qu'il était autiste.
Donc, pas mal de temps pour avoir cette information. Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de nous, aujourd'hui, il y a peut-être un manque de moyens pour sensibiliser les personnes à l'existence possible de troubles autistiques?
Je pense qu'on est dans une phase de progression aujourd'hui, mais quand même, il y a encore une méconnaissance trop importante, je dirais, de la population, mais aussi de certains professionnels, qui fait que on pourrait améliorer les choses grandement avec un peu plus de connaissances.
Alors nous, on a voulu poser quelques questions à la doctoresse Mandy Barker. Elle est pédopsychiatre à la consultation Libellule à Lausanne. Elle est spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux. Elle nous dit ce qui est si complexe dans le diagnostic de l'autisme et pourquoi le diagnostic est-il si difficile à déceler aujourd'hui, même s'il existe de nouveaux outils.
Ils s'utilisent de plus en plus, mais il y a quand même peu de professionnels qui les connaissent. Et le diagnostic se fait souvent seulement sur une base clinique. Disons, sur une base clinique, c'est pas assez. Il faut plusieurs éléments. Il faut une évaluation assez complète d'un enfant pour pouvoir poser un diagnostic de trouble du spectre autistique. L'outil s'appelle l'ADOS et l'autre s'appelle l'ADI.
C'est quoi? C'est en fonction d'un questionnaire?
L'ADOS, c'est vraiment par rapport à l'enfant. C'est une heure d'entretien où on voit l'enfant dans un setting où il y a du jeu. Et puis il y a 2-3 activités structurées, puis on regarde comment l'enfant communique avec l'autre, puis ça va être en fonction un peu de l'âge et du stade de développement de l'enfant. Et ça, c'est vraiment donc un examen clinique structuré où on doit coder, et puis un certain nombre de points pour chaque activité. Et puis, on complémente l'ADOS avec un questionnaire. Alors, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est petit, on n'a pas besoin de ce questionnaire. Mais si l'enfant est grand, c'est important de refaire ce grand questionnaire. Il y a à peu près 70 questions où on va vraiment reprendre l'anamnèse et tout enfin l'enfant comment il était plus petit.
Finalement, est-ce qu'un enfant naît autiste ou est-ce que l'autisme évolue? Est-ce que parfois on a l'impression que tout petit, le nouveau-né, ne présente pas forcément ces signes d'autisme et que ces signes se développent au fil des ans?
Alors, la recherche montre que quand on est autiste, mais on ne voit que très peu de choses dans la première année de vie et que les premiers signes vont être plus évidents vers 18 mois. C'est souvent là d'ailleurs que les parents remarquent qu'il y a une particularité ou une différence chez leur enfant. Et puis les signes peuvent devenir de plus en plus évidents dans les premières années de vie. Les signes doivent être là avant l'âge de 5 ans. Autrement, on ne peut pas parler de troubles du spectre autistique. Alors, vous allez me dire peut-être oui, mais alors comment ça se fait que certaines personnes sont diagnostiquées beaucoup plus tardivement, mais ces personnes avaient des difficultés qui étaient là, mais soit qui ont été traitées, mais sans avoir peut-être ce terme-là. Donc, c'est souvent quand on voit des adolescents vers 14 ans, ils ont déjà eu plusieurs thérapies, de la logopédie, de la psychomotricité, mais sans qu'un diagnostic ait été posé, un diagnostic formel de trouble du spectre autiste.
Quelque chose qui paraissait tout à fait étonnant dans une émission qui a été diffusée mercredi soir sur la télévision française, c'est une fille, une femme, qui a été diagnostiquée à plus de 30 ans. Et pourtant, depuis longtemps, elle savait qu'elle avait ces troubles. Ça peut arriver chez nous, en Suisse, quelqu'un qui est diagnostiqué très tard?
Alors oui, ça peut arriver. Il y a encore plusieurs jeunes adolescents qui viennent sans être diagnostiqués, des adultes aussi, surtout des femmes, à savoir que l'autisme est difficile, encore plus difficile à diagnostiquer chez les filles, parce que les filles ont déjà des compétences sociales relativement élaborées qui souvent couvrent le diagnostic. Donc ça, c'est important à savoir. On dit qu'il y a beaucoup plus de garçons avec autisme que de filles, mais on pense qu'il y a un sous-diagnostic.
L'autisme pose pas mal de questions médicales, mais il faut quand même pas oublier que les parents sont très importants, parce que les parents vivent 24 heures sur 24 avec l'enfant. Est-ce que pour vous, dans le corps médical, le contact, la relation avec les parents, est-ce qu'elle est effectivement très importante, parce qu'elle permet finalement de faire évoluer l'enfant? Elle permet aussi de donner des pistes, parce que chaque enfant autiste est complètement différent et réagit différemment.
Effectivement, ça c'est très important, hein, parce qu'on parle de troubles du spectre autistique, donc il y a des enfants très très différents, et c'est vraiment important de rencontrer la famille, les parents bien sûr, et aussi les frères et sœurs, pour voir comment les aider au mieux, pour accompagner l'enfant qui a les difficultés. Alors, j'ai vraiment envie de dire, c'est important d'être partenaire, hein, c'est vraiment un travail ensemble, mais partenaire avec la famille, partenaire aussi avec les autres thérapeutes qui gravitent autour de l'enfant, et de travailler tous dans le même sens. C'est très important d'ailleurs d'avoir des réunions, ce qu'on appelle de réseau, où toutes les personnes autour de l'enfant, les thérapeutes, la famille et d'autres personnes peut-être qui sont là pour soutenir la famille se rencontrent pour discuter de l'enfant, de ses progrès et des besoins spécifiques futurs de la personne.
Pascal et Véronique Berbera, on parle justement ici de l'importance de la relation entre les parents et le corps médical. Est-ce qu'au début, c'est difficile pour les parents d'entrer dans ce domaine médical et d'avoir réellement un dialogue avec les médecins?
Oui, je pense que c'est pas évident. Enfin, moi, je suis dans le domaine médical, donc c'est un petit peu trompeur. Mais en effet, déjà, c'est pas facile de s'entourer de personnes dans le médical qui nous écoutent, qui prennent en compte ce qu'on dit. Et puis, on a souvent l'impression d'être un peu mis à l'écart.